Donc notre objectif, ça va être d'essayer de mettre les bonnes personnes autour de la table au bon moment pour arriver au résultat qu'on veut atteindre. L'impact sociétal, l'enjeu sociétal que l'institution peut avoir me plaît beaucoup. Je suis justement en contact permanent avec plein de personnes dont les parcours sont ultra diversifiés puisque c'est à la fois des soignants, à la fois des personnes qui travaillent dans l'infrastructure, les ressources humaines, la communication, la gestion.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello, c'est Alice et on se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Maya qui va nous parler de son rôle de chargée de projet au centre hospitalier Jean Titeka. C'est quoi un chargé de projet? Comment est structuré le centre hospitalier Jean Titeka? Quelles opportunités sont offertes à un jeune diplômé d'école de commerce? C'est comment de travailler dans la gestion d'un centre hospitalier et comment en arrive-t-on là? Et finalement, comment fait-on pour combiner un full-time job avec des cours du soir? Voici quelques questions auxquelles Maya va répondre dans cet épisode. Maya a obtenu son master en ingénieur de gestion à Solvay en 2018, après avoir effectué un échange à Madrid. Elle a ensuite entamé une année de stage, dont un stage en ressources humaines et un autre dans une agence de communication spécialisée en santé. Maya travaille maintenant depuis un an et demi en full-time en tant que chargée de projet au centre hospitalier Jean Titeka. Si le secteur de la santé t'intéresse et t'intrigue, alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite surtout pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Maya, j'espère que tu vas bien et merci d'être avec moi aujourd'hui sur Best Regards.
Salut, merci à Best Regards pour l'invitation.
Alors Maya, tu travailles aujourd'hui en tant que chargée de projet au centre hospitalier Jean Titeka. J'aime bien commencer les interviews par la même question. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est structuré l'environnement dans lequel tu travailles et plus particulièrement le centre hospitalier Jean Titeka?
Ouais, alors pour répondre à la première question, donc la santé mentale de manière générale. Donc effectivement, c'est un paysage qui est vachement diversifié. Donc pourquoi est-ce qu'il est diversifié? L'objectif, c'est d'essayer de répondre le mieux possible aux différents besoins de la population qui est touchée par une pathologie mentale. Et donc, il va y avoir plein d'institutions qui varient dans leur structure. Ça veut dire qu'on va avoir des institutions plus grandes, des institutions plus petites. Donc la taille varie, le nombre de travailleurs par patient varie. Et alors, c'est organisé par territoire. Donc, le centre hospitalier Jean Titeka, c'est une des grosses institutions de santé mentale en région Bruxelles-Capitale. La santé mentale, c'est aussi vachement diversifié, en fait, par rapport au type de professionnels qui évoluent dans ce secteur. Donc, évidemment, il va y avoir les psychiatres, mais il y a aussi des médecins généralistes, des psychologues, des assistants sociaux, des ergos, des kinés, des éducateurs, et alors, évidemment, des soignants, des infirmiers, voilà, et tous les services support aussi. Et donc, comme je disais, le centre hospitalier Jean Titeka, c'est à Bruxelles. C'est une des grosses institutions de Bruxelles. Et justement, Titeka, ça contient plusieurs structures. Un hôpital, deux maisons de soins psychiatriques et des équipes mobiles. Donc, l'hôpital, c'est la grosse structure du centre hospitalier qui contient pas mal de lits. Donc, c'est 243 lits en tout, dont les équipes mobiles et les maisons de soins psychiatriques. Il y en a deux qui totalisent en tout 106 lits.
Ok, merci Maya pour cette explication. Est-ce que tu pourrais maintenant plutôt m'expliquer comment est structuré le centre hospitalier Jean Titeka en interne?
Ouais, donc au niveau de la gouvernance, c'est vrai que ça donne une bonne idée du fonctionnement. Donc ben forcément, on a un conseil d'administration avec un directeur général qui est délégué à la gestion journalière et qui fait partie d'un comité de direction. Donc, il y a 6 directions différentes. Donc, la direction générale, évidemment. La direction des soins, dans laquelle on va retrouver plein de métiers, puisque c'est à la fois les soignants, les infirmiers, mais aussi toutes les professions liées aux activités, les ergothérapeutes, les kinés, les éducateurs. On a le département infrastructure et logistique, le département ressources humaines, le département administratif et financier, le département médical, évidemment. Et alors, moi, je travaille avec le directeur général. Donc, moi et mes collègues, on est N-1 du directeur général de l'institution.
Ok, je vois beaucoup plus clair sur comment est structuré l'environnement dans lequel tu travailles. Alors si je ne me trompe, toi t'es chargée de projet. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce titre plus en détail ?
Ouais, alors chargée de projet. Moi déjà j'évolue dans une cellule où on est quatre. On a créé une cellule projet. Donc je suis arrivée dans l'institution il y a un an et demi maintenant et on a créé une cellule quand je suis arrivée finalement, même si elle préexistait déjà. Donc on est quatre, on a des formations super différentes. Donc moi effectivement je sors d'ingénieur de gestion, j'ai étudié à Solvay. J'ai une de mes collègues qui est psychologue de formation et une autre qui est infirmière de formation et alors une autre qui a étudié les romanes. Donc c'est vachement diversifié. Et qu'est-ce qu'on fait exactement ? En fait, l'objectif d'un ou une chargée de projet, c'est de faire en sorte que les projets que l'institution veut mener puissent être réalisés dans les meilleures conditions. Et donc, on intervient soit en tant que chargée de projet, soit en tant que support. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les deux cas, de toute façon, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une méthodologie de gestion de projet. Donc, en fait, on est vraiment une boîte à outils pour que les projets soient réalisés de la meilleure manière. Et donc, en tant que chargé de projet, que chef de projet, pardon, donc notre objectif, ça va être d'essayer de mettre les bonnes personnes autour de la table au bon moment pour arriver au résultat qu'on veut atteindre. Donc, c'est un peu théorique comme ça, je vais vous donner des exemples. Et sinon, l'autre option, c'est qu'on intervient en tant que support. Donc, ça veut dire que là, il y a déjà un chef de projet qui a été désigné, en général par le comité de direction. Et là, on va plutôt aider sur une méthodologie pour y arriver.
Ok, trop chouette, ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu pourrais maintenant me donner un exemple concret, enfin un ou plusieurs exemples d'un projet sur lequel tu as travaillé récemment pour que je puisse mieux m'imaginer ce que tu fais au jour le jour ?
Ouais, donc effectivement, ça va plus parler, à mon avis, aux personnes qui nous écoutent. Donc, je peux vous donner deux exemples, puisque en fait, c'est super diversifié comme travail de travailler en tant que chargé de projet dans une grosse institution comme Titeka, puisque c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de lits, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients, il y a aussi beaucoup de travailleurs. En tout, le centre hospitalier Titeka, c'est près de 600 travailleurs. Et donc, un exemple que j'aime bien donner sur mes projets, parce que je pense que c'est assez parlant, c'est par exemple que l'institution où je travaille aimerait bien ouvrir une nouvelle maison de soins psychiatrique, qui est un des types de structures qui existent en santé mentale. Et donc, pour le faire, ce qu'on doit faire, c'est à la fois négocier avec les autorités pour pouvoir ouvrir un certain nombre de lits, c'est trouver un endroit pour développer un projet architectural pour développer une nouvelle maison, c'est développer une offre de soins qui a du sens par rapport aux besoins de la population, c'est engager des nouvelles personnes pour l'institution qui va ouvrir. Donc ça touche énormément de catégories différentes, à la fois ressources humaines, à la fois soins, et aussi stratégique finalement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à chaque fois les bonnes personnes autour de la table, au bon moment, comme je le disais. Donc, quand on sera à l'étape de trouver un lieu, on va faire appel aux personnes qui travaillent côté infrastructure avec nous. Quand il faudra commencer à développer l'offre de soins, on fera évidemment appel à la direction des soins, aux médecins psychiatres qui s'occupent des maisons de soins psychiatriques. Donc voilà, tout pour finalement arriver à l'objectif final, qui est que cette maison de soins psychiatrique tourne avec des patients dedans, avec une offre adaptée, avec des travailleurs compétents, etc. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien donner. Un autre exemple un petit peu différent pour avoir une bonne vue, un des projets sur lesquels je travaille, c'est la communication d'un nouveau bâtiment hospitalier qui va en fait ouvrir dans un mois. Donc c'est un projet de super longue date d'ouvrir en fait un nouveau bâtiment hospitalier. L'objectif, ça a été de moderniser les infrastructures. Et donc sur le site qu'on a déjà actuellement, il y a deux bâtiments qui ont été reconstruits ces dernières années. Donc le chantier se termine. Et là, le projet sur lequel je travaille, c'est d'avoir une communication adaptée sur ce projet spécifique. Et alors, dans ce cas-ci, forcément, je vais plutôt travailler avec la chargée de communication, avec la direction, tout en prenant en compte les utilisateurs finaux, qui sont dans ce cas-ci à la fois les travailleurs, mais aussi les riverains, les autorités qui nous ont aidés à développer ce projet, les fournisseurs qui travaillent avec nous. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on a notamment développé une plateforme virtuelle qui s'appelle aperçu.be. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur la santé mentale et sur ce projet spécifique, finalement, qui est vachement intéressant, mais ici, je n'ai pas l'occasion de donner beaucoup, beaucoup de détails, n'hésitez pas à aller sur www.aperçu.be. A-P-E-R-T-I-O.be.
Ok, c'est super sympa de voir ces exemples plus concrets. Tu travailles quand même dans un secteur qui est assez spécifique et je serais assez curieuse de savoir comment t'en es arrivé là et de mieux comprendre ton cheminement. Est-ce que tu pourrais partager avec moi ceci ?
Ouais, alors je sais que tu es arrivée dans quelque chose d'assez spécifique et ça n'a pas tout de suite été clair pour moi. J'ai terminé mes secondaires à Bruxelles et au départ, c'est vrai que j'hésitais finalement entre deux types d'études. J'ai hésité entre la médecine et Solvay en fait. Donc j'étais très tôt attirée déjà par la santé, mais c'était pas encore assez clair pour moi. C'était trop compliqué de fermer des portes. Et donc je me suis dirigée vers des études un petit peu plus larges comme celle d'ingénieur de gestion. Et puis en fait, j'ai un peu suivi ce qui me parlait. Et donc ce qui me parlait, c'était quelque chose de plus humain, quelque chose qui puisse être utile, éventuellement sociétal. Et alors j'ai notamment eu l'occasion de suivre un cours qui était proposé en master aux étudiants de médecine, aux étudiants de santé publique et aux étudiants de Solvay, si je ne me trompe pas, qui est en fait un programme interdisciplinaire en médecine translationnelle, ça s'appelle. Et donc ça, j'ai fait pendant un an. J'ai aussi fait un stage en ressources humaines et là, je suis arrivée aussi dans une institution de soins. Le hasard a fait que c'était aussi en santé mentale, c'était pas exprès, mais je suis arrivée là-dedans aussi. Et puis, en fait, c'est vers la fin de mes études, dans le cadre d'un cours où on nous donnait une mission de consultance pour une institution spécifique, que là, j'ai vraiment mis le nez dans une institution de soins, puisqu'en fait, j'ai eu l'occasion de faire un projet sur le centre hospitalier Jean Titeuquet, justement. Et voilà, et donc tout ça m'a mené là où je travaille aujourd'hui.
Ok, merci. Si je ne me trompe pas, tu as fait un certificat à l'ULB en médecine translationnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ce certificat, ce que tu as dû faire pour l'obtenir, à quoi il te sert, etc.
Oui, c'est ça, mais donc c'était un cours dans le cadre du master qui nous était proposé. Et donc tout simplement, on a reçu un mail un jour nous proposant de suivre ça. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, c'est un programme interdisciplinaire dans l'innovation des soins de santé. Et donc, pendant un quadrimestre, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu l'occasion de suivre des cours qui étaient donnés à chaque fois par des intervenants du secteur qui venaient présenter des sujets différents, mais donc qui affaire à l'innovation des soins de santé. Donc, à la fois sur les nouvelles technologies dans les soins de santé, sur éventuellement des pandémies, c'était un peu avant-gardiste à ce moment-là, mais aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle le « patient empowerment », qui est en fait l'autonomisation grandissante des patients, donc qui est ce principe qui veut que les patients, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas uniquement dans le cadre de la santé mentale, sont de plus en plus acteurs et non spectateurs de leur santé. Voilà, donc c'était super varié et puis c'était vachement intéressant en fait. Je pense que j'étais la seule de mon auditoire à suivre ça à ce moment-là, mais par contre j'étais mélangée avec d'autres étudiants de médecine, de santé publique, voilà, donc c'était super intéressant. Et puis ben, en fait j'ai continué ma formation et aujourd'hui je me suis justement lancée cette année dans un master pour les professionnels qui est donné en fait par Solvay, mais qui est justement aussi une union de la fac de médecine, de la fac de Solvay et de la fac de santé publique. Ça s'appelle la MIS, donc c'est un master en management des institutions de soins de santé.
Ok, donc super intéressant ce master, mais est-ce que du coup tu peux m'expliquer comment il se déroule, quel cours tu as et comment tu combines surtout cela avec ton full-time job ?
Donc oui, c'est assez prenant puisque c'est des cours du soir et du matin, donc c'est 3 fois par semaine, c'est 9 heures de cours par semaine. J'ai du coup des examens, hein. Je suis de retour sur les bancs de l'université, j'ai un mémoire et en fait ce master historiquement il s'adressait uniquement aux médecins qui voulaient se diriger vers de la gestion hospitalière et aujourd'hui ça a été davantage ouvert et donc c'est super varié, j'ai des cours que finalement j'ai déjà eu dans le cadre de mes études d'ingénieur de gestion comme par exemple la comptabilité, mais j'ai aussi plein d'autres cours comme des cours d'économie de la santé, des choses comme ça, donc c'est vraiment hyper utile pour moi parce que ça va me permettre de connaître beaucoup mieux tout le paysage santé en Belgique, surtout dans la mesure où il est super spécifique du point de vue des législations, des financements. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça que toutes les personnes qui suivent le master sont là.
Ok, je ne savais pas du tout que ce master existait. Maintenant, revenons plus spécifiquement à ton job. Est-ce que tu pourrais peut-être m'expliquer quelles sont les opportunités futures qui t'attendent ?
Alors, il faut dire que moi, je suis arrivée dans cette institution il y a un an et demi et j'adore mon travail dans la mesure où c'est super terrain. Je suis justement en contact permanent avec plein de personnes dont les parcours sont ultra diversifiés puisque c'est à la fois des soignants, à la fois des personnes qui travaillent dans l'infrastructure, les ressources humaines, la communication, la gestion. Donc en fait, je suis pas vraiment pressée de bouger. Ça me plaît beaucoup d'être en permanence en contact avec tout un tas de personnes, surtout qu'il y a tout un versant de mon travail qui a à faire au change management aussi. Mais si je dois parler de mes opportunités futures, ben forcément, je suis dans le secteur qui me plaît, donc ce serait de monter les échelons là-dedans et donc d'arriver dans des métiers avec plus de responsabilités dans le cadre de la gestion et la stratégie des institutions de santé.
Ok, donc t'es pas pressée de bouger tout de suite. Tu viens de m'expliquer ce que tu aimes dans ton job. Est-ce que tu pourrais peut-être m'expliquer aussi ce que tu aimes moins ou ce que tu trouves un peu plus challengeant ?
Oui, c'est vrai que j'ai expliqué ce que j'aimais dans mon job, mais si je peux ajouter un détail, il y a une chose qu'on me demande souvent, c'est est-ce que je suis en contact avec les patients ? Et c'est vrai que je ne le suis pas. Donc je suis très terrain, je suis en contact avec le personnel qui travaille lui-même avec les patients, mais en fait, pour moi, c'est suffisant. Je n'avais pas forcément envie d'avoir une formation de soignante. Et donc, le fait d'être en contact avec des personnes passionnées qui sont là pour vraiment aider des personnes dans le besoin, finalement, mais ça me passionne moi-même. Et je dois dire, ce qui me challenge plus au quotidien, c'est que je suis dans un travail, je suis au bureau quasiment tous les jours. Donc moi, le confinement, disons que je ne l'ai pas vraiment passé chez moi. Mais du coup, je suis sollicitée à longueur de journée. Je dois être très flexible aussi dans mon travail pour en permanence m'adapter aux besoins, au calendrier des autres. Et voilà, donc je travaille dans une ASBL. Je gagne sans doute un petit peu moins que dans d'autres secteurs, surtout si je compare un peu aux personnes qui ont fait les mêmes études que moi. Mais finalement, le job en lui-même, l'impact sociétal, l'enjeu sociétal que l'institution peut avoir, me plaît beaucoup. Chez nous, en fait, les salaires sont barémisés. Donc en fonction du diplôme et de l'ancienneté, c'est défini.
Ok, bon à savoir. On termine toujours nos podcasts par la même question. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à nos auditeurs ?
Je pense que ce qui est surtout super important, c'est de suivre ses intuitions pendant toutes ses formations, toutes ses études. Et je sais que quand on fait des études en ingénieur de gestion ou qu'on est dans une école de commerce, c'est justement parfois pas très marqué. Et donc, je dirais de suivre, oui, ses intuitions, ses préférences, les personnes qui nous inspirent, d'essayer de rentrer en contact avec les personnes qui nous inspirent, d'aller à des conférences, de s'intéresser aux formations qui sont données. Voilà, et je pense que c'est vraiment important d'aller dans ce sens-là parce que ben, ça n'a pas de prix, en fait, d'avoir un boulot qu'on aime.
Ok, merci beaucoup Maya d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager notre contenu et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes et futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine !